Mon sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis. Oui, c'est un vieux cantique que chantaient et que chantent encore les enfants dans les écoles bibliques. Et j'avais promis de commenter le titre de ce cantique. Et quand j'ai retrouvé la liste des prédications, je me suis demandé comment j'avais pu m'engager dans une chose pareille. En effet, ce cantique est vraiment un peu fleur bleue, c'est le cas de le dire, semble mièvre, et c'est apparemment assez difficile de pouvoir récupérer un tel discours mystique qui semble d'un autre temps. Pourtant, ce thème est extrêmement biblique. Et en effet, la fleur apparaît souvent dans la Bible et surtout, bien sûr, dans le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, vous le savez, c'est un chant d'amour entre le fiancé et la fiancée qui symbolise la relation entre Dieu et l'homme. Et donc le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour entre Dieu et l'homme. Et l'homme dit ce qu'il aime en Dieu et Dieu dit ce qu'il aime dans l'homme. Alors la bien-aimée, au chapitre 2, a en effet cette affirmation étonnante qui a été reprise d'ailleurs par la littérature. La bien-aimée, donc l'humain, dit « Je suis le narcisse du Saron, je suis le lys dans la vallée ». Et donc il se compare lui-même avec des fleurs. Et en quoi cela pourrait-il être une qualité qui pourrait plaire à Dieu ? Ce verset du Cantique des Cantiques, où l'humain est invité à être comme un lys dans la vallée, a été commenté par les théologiens depuis plusieurs milliers d'années, et on a trouvé beaucoup d'arguments pour essayer d'expliquer justement ce qui peut être précieux dans la vie, ce qui peut être essentiel. La première chose, qui n'est peut-être pas la première à laquelle ont pensé les théologiens, mais qui est celle qui me semble la plus importante, c'est que ce qu'il y a de plus précieux dans une fleur, c'est que ça ne sert à rien. Une fleur, vous pouvez mettre un bouquet de fleurs dans votre maison, cela ne sert à rien. Ce bouquet ne fera pas le ménage, ne fera pas la vaisselle, ne protégera pas votre maison contre les voleurs, n'apportera rien de matériel dans votre maison. Et donc, la première chose essentielle, c'est qu'une fleur, c'est beau et c'est inutile. Et je crois que là, nous touchons justement déjà à quelque chose qui est le plus fondamental dans le religieux. C'est que le religieux, c'est inutile. Et quand on se promène dans nos campagnes et que l'on voit, par exemple, un calvaire dans la campagne, une croix, un monument, quelque chose, eh bien, c'est le sens même du religieux, parce qu'un calvaire, ça ne sert à rien. Un silo, une ferme, ça sert à quelque chose, un puits à prendre de l'eau, mais un calvaire, à rien. Et donc le religieux dans notre vie, il est de cet ordre-là. C'est du beau, c'est de la qualité, c'est de l'essentiel, qui justement est d'un autre ordre que l'utilité pure. En effet, Dieu aime le croyant dans ce Cantique des Cantiques, et ce qu'il aime, c'est qu'il est comme un lys dans la vallée. La vallée, pour la Bible, c'est un lieu obscur, c'est là où il fait sombre, là où l'on peut se faire attaquer par des ennemis. Et le Saron, c'était une région aussi très inconfortable, inhospitalière, une région d'ennemis. Et Dieu ne dit pas à l'homme « Tu es formidable, parce que dans l'obscurité, tu apportes de la lumière ». Il ne dit pas « Dans la vallée de Saron, toi, tu arrives à combattre les ennemis ». Il est un lys dans la vallée. Est-ce que le lys va empêcher le moindre ennemi ? Est-ce que le lys va apporter la moindre touche de lumière dans un endroit sombre ? Réponse, non. Et donc le lys ne sert à rien. Et Dieu ne dit pas qu'il aime l'homme parce qu'il fait des bonnes choses, parce qu'il est efficace, mais il aime l'homme comme une fleur dans ce monde obscur et menaçant. Et en effet, le beau est quelque chose d'absolument essentiel, je crois, et fondamental. Parce que justement, la vie n'est pas que utilité. Et on ne peut pas juger de la valeur des choses par rapport à ce qu'elles rapportent, par rapport à l'intérêt qu'elles ont, par rapport à ce à quoi elles servent. Il y a dans la vie de très belles choses qui ne servent à rien. Mais ces choses sont belles et justement elles donnent un sens à la vie. Et peut-être que justement les choses sont d'autant plus belles qu'elles ne servent à rien. Ce qui est utile, c'est pratique, ça sert à quelque chose. Mais ce qui est beau, eh bien c'est ça peut-être justement le plus qui donne du sens à notre vie et qui nous permet de vivre. On pourrait prendre une multitude d'exemples, mais prenons un exemple extrême et ultime. Un bébé. Un bébé, ça ne sert à rien. À rien, à rien de rien. Ça ne sait rien faire. Ça n'est d'aucune utilité. Mais pourtant, ce n'est que de la beauté, de la tendresse, de l'amour. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus précieux, peut-être, dans une vie. Et je dirais la même chose, parce que les extrêmes se rejoignent, à une personne âgée. Parfois, certains me disent « Ah, je ne sers plus à rien. » Et alors, est-ce que notre vie se compte, la valeur de notre vie se compte à l'utilité que l'on a? Peut-être notre salaire se compte à l'utilité qu'on a dans la société, enfin, ou tout au moins dans l'utilité que l'on a pour faire gagner de l'argent à d'autres, mais la valeur de notre vie ne se compte pas à l'utilité que nous avons. Et je pense que nous pouvons apporter au monde justement autre chose que de l'utilité matérielle. Quand j'ai besoin d'un service matériel, eh bien, soit si j'ai de l'argent, j'engage quelqu'un pour le faire, et si je n'en ai pas, je demande gentiment à quelqu'un de le faire. Un service, on peut toujours l'obtenir. Mais par contre, l'amour, la gratuité, l'amitié, la tendresse, ça ne s'achète pas et ça ne se vend pas. Et donc peut-être que justement, ce que peut apporter de mieux un être humain dans ce monde, c'est d'apporter de la qualité, de la beauté, de la grâce, de la tendresse, de l'harmonie. Et je suis persuadé que tout cela est encore plus essentiel pour vivre que l'argent et tous les outils utiles du monde. Et donc Dieu ne nous juge pas et Dieu ne juge pas les gens par rapport à leur utilité dans ce monde. C'est vrai d'une façon générale, par rapport à l'utilité que l'on a pour ce monde matériel, qui de toute façon n'est qu'une ombre. Bon, vous pouvez contribuer à la vie économique de votre pays, c'est très bien pour l'économie mondiale, mais il y a d'autres façons de vivre. Certains d'ailleurs me le reprochent. Une fois un ami m'a dit « À toi, pasteur, tu es un improductif. » Bah oui, je ne produis rien. Je suis un improductif, le monde me le rend bien puisqu'il me paye mal. Mais c'est le fait de tous ceux qui sont improductifs dans ce monde. Et pourtant, je ne crois pas être absurde ou inutile. Peut-être qu'au contraire, cela apporte quelque chose. Mais par ailleurs, même par rapport au progrès du royaume de Dieu, parce que je pourrais, moi, me rassurer en me disant, au moins, peut-être que je ne suis pas très productif matériellement, mais je prêche une bonne nouvelle, je fais avancer le royaume de Dieu, donc au moins, je suis productif pour les choses spirituelles. Eh bien, même cela est un piège et un mensonge. Parce que je ne crois pas que Dieu nous juge par rapport à notre utilité, et même par rapport à notre utilité spirituelle. Et donc, je crois que notre texte du Cantique des Cantiques s'élève même contre la théologie des œuvres, qui voudrait faire croire que notre vie n'a de sens que par rapport au bien que l'on fait, par rapport aux bonnes œuvres que l'on fait, par rapport à la part que l'on prend à un monde meilleur, comme si notre vie devait être jugée par rapport à l'utilité spirituelle que nous aurions dans ce monde. Je crois qu'il est très bien d'agir dans ce monde pour la paix, pour l'amour, pour la fraternité, pour la tolérance, mais je crois en même temps que notre vie n'est pas jugée par rapport à son utilité ou par rapport à ce que l'on fait. Notre vie, elle est simplement aimée comme elle est, parce qu'elle est comme une fleur. Toute vie est comme une fleur dans une vallée sombre. Je crois d'ailleurs que Dieu, dans notre vie, est aussi un peu du même ordre. Parce que, je vous disais, l'inutile est l'essence du religieux. Mais croire en Dieu, c'est pareil, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour être plus riche, ça ne sert à rien pour être en meilleure santé, croire en Dieu ne donne aucun avantage matériel. Au contraire, puisque l'argent que vous donnez pour Dieu, pour les autres, ou pour des causes généreuses, c'est de l'argent que vous perdez. Et donc tout cela est non seulement inutile, mais dispendieux. Et donc Dieu dans notre vie, c'est du même ordre. C'est quelque chose qui ne sert à rien, de matériel, et qui pour autant n'est pas totalement inutile. Parce que peut-être que Dieu dans notre vie, ou notre foi, notre quête spirituelle, c'est justement une quête du beau, une quête de l'amour. Et dans notre relation à Dieu, nous pouvons trouver un peu de beauté dans un monde qui n'est pas toujours harmonieux. Et dans notre relation à Dieu, nous pouvons avoir un peu d'amour et trouver en Dieu justement une source d'amour dans un monde souvent de haine et de violence. Et nous avons en Dieu une lumière, même dans une vie difficile et terne. Et je crois que tout cela, ça peut redonner confiance. Tout cela, ça nous donne de l'espérance. C'est une lumière et c'est quelque chose d'infiniment précieux. Donc voilà, dans le Cantique des Cantiques, il y a là, vous lirez les commentaires si ça vous intéresse, une ambiguïté. On ne sait pas très bien si le lys dans la vallée, c'est Dieu ou si c'est le croyant. En fait, c'est les deux à la fois. Dieu est pour moi le lys dans la vallée. Dieu est pour moi la lumière dans ma ténèbre. Il est pour moi l'amour, même quand je suis incompris. Il est pour moi l'espérance quand tout m'invite à désespérer de ce monde matériel. Et parce que j'ai en moi cette source, justement, de beauté, de lumière, d'amour et d'espérance, alors je peux peut-être envisager d'être à mon tour une source de tout cela pour le monde qui est autour de moi. Donc voilà déjà un premier point, je dirais, de la chose fondamentale de cette fleur passagère, de cette fleur pleine de beauté. Mais ensuite, il faut bien dire, et c'est souvent présenté comme cela dans la Bible, une fleur a quand même quelques défauts, et en particulier, c'est passager. Un jour, elle fleurit, et demain, elle n'est plus. Et la fleur est donc le symbole même de ce qui est éphémère. On s'est dit plusieurs fois, c'est dit dans le psaume 103, c'est repris par l'épître de Pierre, ou par l'évangile de Matthieu, « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur se fane, mais la parole de Dieu dure éternellement. » Donc oui, c'est vrai, l'herbe sèche et la fleur se fane. Alors, c'est quand même un petit problème. C'est peut-être un défaut, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que cet aspect éphémère, contribue à la beauté de la fleur, mais en tout cas, ça pose un problème, c'est-à-dire, que reste-t-il de cette beauté ? À ce sujet, j'ai, ou plutôt l'Écriture, il me semble, a plusieurs réponses à proposer. D'abord, que la durée n'est pas une valeur essentielle. L'important, ce n'est pas que les choses durent longtemps. L'important, ce n'est pas la longueur et la durée. L'important, c'est la qualité. La qualité vaut mieux, pourrais-je dire, que la quantité. C'est d'ailleurs l'un des messages de la vie même du Christ. Jésus meurt à 33 ans, c'est-à-dire plus jeune que beaucoup d'entre nous, et pourtant, on nous dit que sa vie a une qualité extraordinaire. Cela veut dire qu'il vaut mieux une vie courte et réussie qu'une vie longue et nulle. Par conséquent, une rose, un lys, une fleur a un temps de durée court, mais ce n'est pas parce qu'il est court qu'il n'est rien. La brièveté n'a rien à voir avec la qualité. Quelque chose de fugace, d'intense, de fort, d'essentiel peut avoir énormément de sens et peut donner du sens bien au-delà du temps où il vit. Et je dois reconnaître que dans notre vie, il y a ainsi certains instants miraculeux, dirais-je. Il y a des instants de pur bonheur. Des instants peut-être passés, des instants qui sont peut-être révolus, mais qui n'ont pas servi à rien. Parce que ce sont des instants qui donnent du sens, de la puissance à toute notre vie. Ce sont peut-être des instants auxquels on peut accrocher sa vie. Alors en quoi ces instants passés et révolus peuvent-ils continuer d'avoir du sens ? Ça, c'est une question à laquelle les théologiens ont réfléchi depuis des milliers d'années aussi, et qui a été une des grandes questions du Moyen Âge. Certains ont dit, c'est par le souvenir. Donc oui, je reste attaché au souvenir de cet instant très fort, et aujourd'hui encore, je vis là-dessus, par le souvenir. Certains ont critiqué cette façon de voir les choses. Et en particulier, il s'en trouve une critique dans un roman qui a ensuite fait un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le nom de la rose, d'Umberto Eco. Et vous savez que ce roman se termine par une citation latine qui a donné d'ailleurs le titre à l'œuvre. Stat rosa pristina nomine nomina nuda tenemus, ce qui veut dire en français la rose passée demeure par son nom, c'est-à-dire qu'on se souvient d'une rose passée, même si elle est passée, je peux encore la nommer, je dis hier il y avait une rose dans mon jardin, mais dit l'auteur, nous ne tenons qu'un nom vide, c'est-à-dire un nom qui n'a rien. Et donc est-ce que effectivement on ne tient qu'un nom vide, et est-ce que le souvenir finalement n'est qu'une carcasse vide de quelque chose qui n'est plus? Eh bien, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je crois au contraire que les choses ont là encore plus de consistance que uniquement dans le moment même où elles existent. C'est d'ailleurs le message que je prêche et que nous prêchons dans chaque service funèbre quand nous disons la vie éternelle, de dire une vie ne se limite pas aux quelques années entre la naissance et la mort, mais tout événement, comme toute vie, même limitée dans le temps, a un impact, je dirais, sur le temps, sur l'éternité, sur le monde, qui va bien au-delà de ses limites temporelles. D'abord parce que ces instants, j'allais dire ces instants miraculeux, ces instants de beauté, de grâce, d'amour, de fidélité, ces instants extraordinaires que tous, certainement, nous avons pu connaître, ces instants, d'abord, témoignent d'une réalité plus profonde dont ils sont les marqueurs. Ils témoignent qu'il y a quelque chose qui existe. Quand, dans ma vie, j'ai eu une fois une véritable preuve d'amour, eh bien, je sais que l'amour existe. Quand un jour j'ai vu quelque chose de beau, je sais que la beauté existe. Et donc cela renvoie, si vous voulez, à quelque chose qui est au-delà de la chose elle-même. Parce que ces instants dont je parle ne sont que les parties émergentes de réalités essentielles et éternelles, en quelque sorte, dans lesquelles je veux croire. Et donc ces moments de beauté, vous disais-je, prouvent que la beauté existe, prouvent qu'il y a dans ce que tout dans ce monde n'est pas qu'obscurité, qu'égoïsme, que malheur et que douleur. Et donc je dois me souvenir justement de ces instants, parce que du coup je sais que le beau, l'amour, le bon, la tendresse, la fidélité, la grâce, tout cela ce ne sont pas des vains mots, ce sont des réalités fondamentales. Et la citation latine que je vous ai dite tout à l'heure était une critique de ce que l'on appelait le nominalisme. Le nominalisme était la critique de la pensée platonicienne, si l'on peut dire. Platon disait « la réalité essentielle, elle est dans les idées plus que dans ce monde visible ». Et les nominalistes disaient « non, non, les idées ne sont rien. Ce qui existe, la seule chose qui existe, c'est ce que l'on voit, ce que l'on touche, l'objet, le monde concret et matériel. Les idées ne sont rien. » Mais je crois au contraire que les idées sont tout. C'est-à-dire que la vraie vérité, la vraie réalité est au-delà du matériel et que, effectivement, comme le dit Platon, le monde matériel n'est que finalement un écran sur lequel se projettent certaines réalités éternelles dans lesquelles nous pouvons nous mettre notre foi et vers lesquelles il faut nous tourner. Et pour moi, ma raison d'être, c'est que justement, je ne crois pas dans ce monde matériel et concret qui me donne jour après jour des raisons de douter de lui, je dirais, mais je crois dans l'amour, dans le pardon et dans la paix. Donc je vous dirais que je suis un athée à l'envers. Je ne crois pas dans le monde. Je n'y crois pas à ce monde, pas une minute. Je crois que ce monde n'est vraiment que mensonge, violence, dureté. Mais je crois dans l'amour, dans la tendresse, dans la fidélité et dans l'espérance. Et je crois que j'ai de la chance, parce que là, il y a effectivement de bonnes raisons, je dirais, de croire. Et c'est pareil, effectivement, je vous disais, le monde, effectivement, n'est pas toujours beau, mais dans ce monde, les quelques touches d'amour, de grâce, de tendresse, de beauté que l'on y voit sont comme des fleurs qui poussent dans un désert et qui donnent sens au monde. Autrement dit, là encore, je vais retomber sur une parabole de l'Évangile. L'Évangile présente sans arrêt Dieu comme celui qui moissonne. Ce monde, bon, je dis qu'il était mauvais, je suis un peu pessimiste. Aujourd'hui, certainement, il n'est pas que mauvais, mais néanmoins, ce monde est comme il est, ni bon ni mauvais, avec un mélange de tout. Et il y a dans ce monde, par endroits, des fleurs qui poussent, des fleurs de tendresse, d'amour, de bonté, de générosité. Eh bien, ces fleurs-là donnent sens au monde. Et je dirais, ces instants, ces moments, ces lieux de générosité, d'amour, de tendresse, dirais-je, donnent raison au Créateur. On pourrait se dire, mais Dieu, pourquoi a-t-il créé un monde pour qu'il y ait tant de dureté? Eh bien voilà, le sens de la création, c'est qu'il y a par-ci, par-là, de la beauté, de la tendresse et de l'amour. Et ce sont ces points ponctuels, ces roses au milieu des épines, ces lys dans la vallée, ces fleurs dans le désert, qui donnent raison à l'acte de la création et qui donnent sens au monde dans son ensemble. Et je crois que Dieu, justement, moissonne ces roses, moissonne ces fleurs et moissonne ces lys. Le salut éternel, c'est ça. Dieu oublie tout le reste et il garde dans sa mémoire éternelle ses beautés. Dieu ne garde que les meilleurs, il les conserve pour l'éternité. Et ainsi, le croyant, il est comme un lys dans la vallée, il est dans ce monde, peut-être, un peu de beauté, un peu d'amour, et c'est ça que Dieu regarde, et uniquement ça. Et puis enfin, mais j'ai même hésité à le dire, parce que, à mon avis, ce serait inutile, la fleur n'est pas stérile, elle est promesse de fruits, c'est vrai. Le Cantique des Cantiques lui-même dit, au chapitre 7, « Allons voir dans le jardin si la vigne fleurit. » Oui, c'est vrai que la fleur, en plus, est intéressante parce qu'elle est signe qu'un fruit va pouvoir être donné. Et ça, c'est l'autre point qui fait que la fleur, même passagère, n'est pas absurde. Parce que oui, c'est vrai, Dieu s'en souvient, il y a la mémoire, c'est témoignage d'autre chose. Mais c'est aussi, et je le crois, c'est que le bien que l'on fait n'est jamais perdu. Et ça sème une vraie graine de vie dans le monde. Le but, ce n'est pas de faire beau pour faire beau. Le but, ce n'est pas uniquement d'être dans l'apparence, je dirais. Mais je crois que la beauté elle-même peut changer quelque chose dans ce monde. Peut apporter quelque chose. Que finalement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que le beau est inutile. Finalement, peut-être pas tant que ça. Il semble, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être que le beau peut transformer le monde. Une beauté, une bonté peut donner de la vie. Sinon, si le beau n'est que beau, alors il est, comme dit Paul, une cymbale qui retentit, un bronze qui résonne. Mais je crois que la beauté dans ce monde peut, et je le crois, même avoir une sorte d'efficacité au-delà uniquement de l'aspect esthétique. Et ça, c'est de la transmission. Mais comme la fleur, cette transmission ne se fait qu'en disparaissant. La fleur, quand elle donne le fruit, n'est plus fleur. Et donc ça me montre qu'il faut aussi relativiser ce dernier point sur l'efficacité, parce que on ne sait jamais ce que l'on transmet. Et donc il ne faut pas être obsédé par la transmission ni par l'utilité. Que la fleur se contente d'être fleur, et puis c'est tout. Le fruit, il viendra en son temps. Ne vous préoccupez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Vous contentez-vous d'être un lys dans la vallée, une rose parmi les épines et un narcisse dans le désert du Saron. Et donc il ne faut pas se préoccuper de la transmission, de ce que l'on laisse, de ce qui restera. Ça ne vous regarde pas. La rose, elle est une rose, et être une fleur, juste pour donner de la beauté, être en son temps, au moment où l'on est là, pouvoir donner quelque chose, sans chercher ni à faire quelque chose d'éternel, ni d'exceptionnel, ni de durable, juste être soi dans la beauté et dans la grâce. Dieu ne nous demande rien d'autre. Être dans la beauté et dans la grâce. De vivre de beauté et de grâce. Pour que notre vie soit beauté et qu'elle puisse être comme un parfum qui monte à Dieu et qui donne une bonne odeur d'amour, de sainteté, de grâce et de pardon dans ce monde. C'est tout cela qui est la source de la vie et la source de toute éternité. Et pour notre plus grand bonheur, je le crois, aussi pour le bonheur des autres et pour la gloire de la création. Amen.